Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 36e épisode du podcast Interstice. La sécurité informatique est devenue une question préoccupante qui touche de nombreux domaines. Pour nous en parler, nous recevons Martin Abadi, chercheur en informatique au centre de recherche de Microsoft dans la Silicon Valley et l'actuel titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Martin Abadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la sécurité informatique. Est-ce que certaines attaques informatiques arrivent encore à vous surprendre ?
Oui, les attaques évoluent sans cesse. Par exemple, dans une attaque récente et très amusante, un attaquant envoyait deux applications sur un téléphone avec le système d'exploitation Android. Et l'une de ces applications essayait d'obtenir le numéro de carte de crédit d'un usager, mais n'avait pas le droit de l'envoyer sur le réseau. Donc on pourrait se dire, elle ne peut pas faire trop de mal. L'autre application n'avait pas le droit d'écouter la conversation téléphonique, donc elle ne pourrait pas en principe obtenir le numéro de carte de crédit de l'usager, mais elle pouvait communiquer sur le réseau. Encore une fois, on pouvait se dire, ça ne peut pas faire trop de mal. En plus, il semblait superficiellement que ces deux applications ne pouvaient pas échanger des données. Et la politique de sécurité, tout au moins si on la comprenait superficiellement, ne le permettait pas. Or, ces deux applications pouvaient communiquer en changeant le paramètre de vibration du téléphone portable. C'est un canal auxiliaire qui permettait de transmettre à peu près, 80 bits par seconde, ce qui n'est pas énorme, mais largement suffisant à exfiltrer un numéro de carte de crédit.
Alors dites-moi, quelle sécurité informatique peut-on garantir ?
La sécurité n'est pas absolue et dépend de nos attentes. Elle a des définitions et des modalités différentes dans des systèmes différents. Par exemple, j'accède par Internet au site de RATP pour voir les horaires de bus. La propriété qui évolue est une propriété d'authenticité ou d'intégrité. On voudrait que les horaires des bus soient corrects. On ne s'attend pas à des propriétés de confidentialité. Par contre, pour des sites qui contiennent des données médicales, par exemple, on veut aussi des données de confidentialité. Et donc, généralement, on s'intéresse justement à ce type de propriétés, intégrité et confidentialité. On s'intéresse souvent aussi à des propriétés de disponibilité, le fait que les systèmes ne sont pas vulnérables à des attaques par déni de service qui empêcheraient leur usage par des clients légitimes.
Et quels sont les enjeux de la sécurité informatique ?
Globalement, il s'agit de permettre aux usagers, aux entreprises, aux gouvernements d'utiliser l'informatique autant qu'ils le voudraient, de la façon la plus libre possible, sans avoir à craindre que des intrus en perturbent les propriétés et qu'ils détournent leurs données ou qu'ils exploitent les données de façon inappropriée.
Ces attaques informatiques ont-elles des caractéristiques particulières ?
Les attaques informatiques ont beaucoup d'aspects partagés avec les attaques dans d'autres domaines. Tout d'abord, leur but. Ces attaques visent souvent un enrichissement financier ou des gains politiques ou encore de la publicité. Ce qui différencie les attaques dans le domaine informatique, c'est qu'elles s'appuient sur l'outil informatique pour être automatique, de très grande échelle et souvent anonyme et monté à distance. Et certains de ces aspects des attaques sont absolument intrinsèques à l'outil informatique. Le fait que les attaques soient automatiques, notamment, est une conséquence immédiate du fait que les ordinateurs peuvent être programmés et faire la même chose, que ce soit quelque chose de bien ou une attaque, un grand nombre de fois, et ils peuvent le faire aussi de très loin. D'autres caractéristiques sont plutôt une conséquence de choix que nous avons fait dans la conception et le développement de l'informatique, notamment dans le développement d'Internet. Dans Internet, a priori, il y a énormément d'anonymat. Le système de base Internet, c'était sur le protocole IP, le protocole TCP, et ces protocoles ne fournissent a priori que très peu de garanties d'authenticité. Les ordinateurs eux-mêmes n'envoient pas d'identifiants qui permettraient de façon fiable de les authentifier à distance, mais c'est un choix. On pourrait très facilement concevoir des protocoles et des architectures d'ordinateurs où chaque fois que, par exemple, un site web reçoit une requête, il sait de quel ordinateur vient cette requête.
Et quelles sont les difficultés que l'on rencontre pour lutter contre ces attaques informatiques ?
Il y en a un grand nombre. Tout d'abord, qu'on les comprend très mal. On sait assez peu sur comment fonctionnent les attaquants. Par exemple, nous sommes souvent attaqués par des botnets.
Juste une précision, que représente exactement un botnet ?
Un botnet est un réseau d'ordinateurs qui, souvent à l'insu de leurs propriétaires, participent à des attaques, typiquement des ordinateurs dont la sécurité est compromise. Les botnets peuvent compter des dizaines de milliers d'ordinateurs, voire plus. Or, il est assez difficile d'identifier les attaquants qui sont derrière les botnets, de savoir par exemple, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui gèrent un botnet et un autre botnet, ou est-ce que ce sont des personnes différentes, ou même des adversaires qui sont en train de se combattre entre eux. Une autre difficulté, c'est que nous avons souvent des buts contradictoires, par exemple la confidentialité des données des usagers et leur authentification. Et enfin, que la sécurité est coûteuse et elle est encombrante. Nous avons peut-être davantage de sécurité si nous avons beaucoup de mots de passe différents, un pour chaque site web que nous utilisons, mais nous n'avons vraiment pas très envie de devoir nous souvenir de tous ces mots de passe. Les serveurs web seront peut-être plus sûrs s'ils utilisent des protocoles cryptographiques comme SSL, mais parfois, pour certaines applications, ils trouvent que ces protocoles sont quelque peu coûteux. Ou encore, pour avoir une sécurité plus forte, dans certaines organisations, on ne permettrait pas d'accéder à certains services ou à certains sites web, ou même certains ordinateurs seraient complètement coupés des réseaux. Ce qui, à mon avis, est tout à fait prudent et tout à fait raisonnable si on est vraiment très préoccupé par la sécurité. Mais bien sûr, cela n'est pas très commode.
Et sur Internet aussi, les attaques évoluent ?
Oui, nous avons maintenant, par exemple, des attaques sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Depuis quelque temps, le spam est un moyen commode pour les attaquants de diffuser des publicités, mais aussi des liens vers des sites qu'ils contrôlent et qui peuvent contenir des programmes dangereux. Par exemple, de faux programmes d'antivirus. Mais ces derniers temps, en plus, les attaquants utilisent d'autres moyens pour diffuser ces liens, notamment les moteurs de recherche. Ils ont trouvé un certain nombre d'astuces qui leur permettent de faire en sorte que quand un usager tape une requête sur un sujet qui est très à la mode, un certain nombre des pages web qui sont proposées à l'usager sont en fait générées par des attaquants qui peuvent y placer leur programme dangereux.
Donc si on clique sur un lien vers l'une de ces pages, on se retrouve avec un virus ou...
Parfois ça demande plusieurs clics, parfois on va sur une page et puis ça nous redirige vers une autre page où il y a des virus, en effet. Ce qui est délicat dans tout ceci n'est pas la construction des virus qui sont assez standards, mais plutôt les méthodes des attaquants pour générer des pages qui trompent les moteurs de recherche et qui sont proposées comme résultat de bonne qualité aux usagers. C'est ce qu'on appelle les techniques de SEO ou Search Engine Optimization, et plus précisément Black Hat Search Engine Optimization. Black Hat faisant référence à ce que sont des pages construites par des attaquants. Ces pages web doivent contenir non seulement les termes à la mode comme Fukushima, mais aussi doivent être reliées par des liens, des URL, d'autres pages supposées de bonne qualité, et les attaquants les génèrent de manière algorithmique en très grand nombre et réussissent à installer des liens dans d'autres pages sur le web par-ci par-là, comme par exemple dans des blogs, pour en faire monter le rang dans les résultats. Mais cette même méthode pour générer les pages et pour les promouvoir fait que parfois, en tant que défenseur, nous avons une chance de détecter. Par exemple, nous avons découvert avec des collègues de MSR et de l'Université de Washington qu'un certain nombre des URL de ces pages sont générées de façon algorithmique et qu'on peut y découvrir des régularités qui nous permettent d'identifier les pages des attaquants et éventuellement de les bloquer.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on a les moyens de lutter ?
On est capable de le faire tout au moins offline, c'est-à-dire qu'on peut le faire après coup. On est en train de faire des progrès pour le faire aussi online, le faire dynamiquement au fur et à mesure pour bloquer les attaques en temps réel autant que possible.
Justement, vous parlez d'online et d'offline. Un des problèmes, entre guillemets, de la sécurité informatique, en tout cas en ce qui concerne les attaques informatiques, c'est souvent qu'on arrive après la bataille.
Oui, un des problèmes de sécurité informatique est qu'on arrive après, et il est très important, et on ne le fait pas assez, de concevoir les systèmes avec la propriété que même si on arrive après, on réussit à réparer. Les systèmes bancaires ont souvent cette propriété. Très souvent, toute transaction a un inverse qu'on peut appliquer à P si on s'est trompé. Et pour les transactions qu'on ne peut pas défaire, on fait très attention dans les systèmes bancaires. Dans les systèmes informatiques, généralement, on a plus de mal à revenir en arrière. Et un certain nombre de travaux récents s'intéressent justement à cette question et permettent de revenir en arrière de manière efficace et sans détruire le travail légitime des usagers qui aurait eu lieu entre le moment de l'attaque et le moment où on décide de revenir en arrière.
Pour finir, la sécurité des systèmes informatiques n'est-elle pas aussi une question d'éducation ?
Donc il y a bien sûr un besoin d'éducation des usagers de base et des administrateurs des systèmes. Il y a aussi un besoin de conception des systèmes pour que les usagers puissent laisser les tâches les plus difficiles aux administrateurs. Il n'est pas question d'exiger à chaque usager de devenir un expert en sécurité informatique. D'autre part, cette question d'éducation concerne aussi, bien entendu, l'éducation au niveau universitaire en informatique. Et il faut comprendre que l'informatique s'appuie beaucoup sur des modèles, des schémas abstraits de calcul. Et la sécurité informatique n'est pas une exception à cet égard, mais c'est un domaine particulièrement difficile, en ce sens que très souvent, les attaquants se placent en dehors de nos modèles de calcul. Ils réussissent à monter les attaques justement parce qu'on n'avait pas pensé à leurs astuces quand on a conçu le modèle de calcul.
Martin Abadi, merci d'avoir accepté cet entretien.
Merci.
Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.